Le compteur du Téléthon 2021 a donc atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons, un chiffre en nette hausse par rapport à l'an passé qui avait vu, on le rappelle, la crise sanitaire priver l'événement d'animation sur le terrain. Cette 35e édition a donc retrouvé un niveau de générosité d'avant Covid. 271 000 euros de promesses de dons dans le Calvados, le million d'euros dépassé en Normandie, objectif atteint donc, à l'instar des 1984 euros récoltés grâce à la mobilisation des auditrices et auditeurs de Radio VFM qui, encore une fois, ont permis de valider le défi cycliste de Serge Cordon, Franck Lecoq et Philippe Hervieux. Un premier bilan très satisfaisant également à l'échelle du Bocage Juirois au sortir des ultimes animations qui avaient lieu hier après-midi. Serge Cordon.
À chaud comme ça, je suis quand même assez content parce que tout s'est bien passé. Avec la crainte des conditions sanitaires qu'on avait, on pouvait craindre que le public ne se déplace pas, on pouvait craindre que les donateurs soient frileux. Finalement, on a quand même eu quelques animations qui ont bien fonctionné, les urnes se sont bien remplies, les dons avec l'opération, avec la radio, les donateurs, les auditeurs, les auditrices a bien fonctionné. Donc pour moi, si vous voulez, il n'existe pas de petits dons, il n'existe pas de petites animations, donc tout compte. Et pour nous, organisateurs, avec Agnès, Philippe et Flo, je pense que on est une bonne année pour les conditions qu'on a.
Le chiffre n'est encore que provisoire, évidemment, mais la première estimation est quand même extrêmement satisfaisante.
Bah oui, parce que par rapport à l'année dernière où on avait eu autour de 11, un peu plus de 11 000, une reprise avec les mêmes conditions qu'on venait d'évoquer, c'était difficile. Je me disais que si on faisait une quinzaine de mille, on serait bien. Et là, hier soir, on annonçait 15 453 euros de versés. Mais c'est une première estimation, puisque ce dimanche, on avait le loto. On a encore les résultats de la soirée chorale de Landel, des animations qu'il y a eu sur Nootsienne. Voilà, donc à mon avis, on peut légitimement espérer tourner, quand on aura fini les comptes, autour de 17 500 à peu près, ce qui serait un très beau chiffre pour les conditions du moment, quoi. Ça, c'est vraiment une satisfaction. Oui.
Serge Cordon qui donne rendez-vous en décembre 2022 pour un nouveau défi Téléthon. Leur présence massive n'est pas passée inaperçue dans les restaurants, les bars et les discothèques au cours de la nuit de samedi à dimanche. Une vaste opération de contrôle a été menée par les gendarmes du Calvados qui ont relevé seulement 4 infractions. À Vire-Normandie, une dizaine de gendarmes ont contrôlé entre 23h et 1h du matin le Gambrinus, le Moonlight, la discothèque Le Tiffany ou encore le Bowling. Pour Fabien Prieur du Bowling de Vire, l'opération a été bien comprise par les clients de l'établissement.
Franchement, très très bien, les clients ont obtempéré du mieux qu'ils peuvent. Même certains sont allés directement vers les gendarmes pour leur présenter leur passe sanitaire. Donc tout le monde est en règle et c'est bien comme ça, c'est ce qu'il faut.
Autrefois, le passe sanitaire était suffisant, maintenant il faut aussi le masque. Il faut réexpliquer en fait à la clientèle.
Oui, effectivement, on est toujours dans la prévention. C'est parfois difficile avec certains clients de leur faire comprendre que les restrictions sanitaires, elles sont obligées d'être durcies parce que nouveaux variants, parce que plus de malades. Mais c'est le bien de tous, c'est la santé de tous, donc c'est très important de gérer comme ça.
Une opération de contrôle qui avait en fait un double objectif, comme l'explique la capitaine Nadège Fontagne, commandante en second de la compagnie de gendarmerie de Vire.
Il y a la sensibilisation sur le port du masque dans les boîtes de nuit, bars de nuit et tout ce qui est lieu en fait public, où maintenant le port du masque effectivement est obligatoire pour tout déplacement. Et également aussi une prévention sur l'utilisation du GHB, malheureusement, dans les bars et discothèques qui commencent à prendre une ampleur un petit peu plus importante, dont effectivement le secteur de Caen qui est touché. Donc on fait effectivement une prévention sur le GHB qui pourrait malheureusement arriver sur le secteur virois également.
Les jeunes sont sensibles aussi à ce qui devient, c'est vrai, un fléau?
Ils sont assez sensibles, ils sont bien réceptifs, comme les propriétaires de bars ou des discothèques qui ont reçu chacun un flyer pour pouvoir l'afficher dans leur établissement. Et je pense qu'effectivement, ils sont assez sensibles à ce problème-là.
Dans l'ensemble, les consignes sanitaires sont plutôt bien respectées?
Pour ce soir, nous avons fait plusieurs établissements. Effectivement, il n'y a pas eu de soucis. Tous les passes sanitaires ont été contrôlés et sont valides. Le port du masque également, tout le monde est compréhensif. Ces opérations seront renouvelées de jour comme de nuit dans tout établissement recevant du public.
Un reportage au bowling de Vire au cours de la nuit de samedi à dimanche. Le GHB auquel faisait référence la capitaine Fontagne, c'est donc cette drogue de synthèse aux effets sédatifs, surnommée également la drogue du violeur. Un cas aurait été recensé dans le bocage ces jours derniers, mais l'information n'a pas été confirmée. Dans l'actualité également, les sapeurs-pompiers de Vire, Aunay-sur-Odon et Villy-Bocage, qui sont intervenus pour un feu de tracteur stationné sous une stabulation au lieu-dit Migny, dans une ferme de Dialon-sur-Chêne, dans le Pré-Bocage. C'était samedi matin. Le feu a commencé à se propager à la stabulation. L'intervention des secours a permis de sauver 600 des 700 mètres carrés du bâtiment. 50 vaches ont également été évacuées à temps, mais 7 veaux sont morts, victimes des fumées. Trafic très perturbé sur les lignes SNCF ce lundi entre Paris et la Normandie en raison d'un mouvement de grève. Certains trains au départ de Cherbourg via Bayeux et à destination de Paris-Saint-Lazare ont été supprimés dès hier. C'est valable également dans l'autre sens, dans le sens Paris-Cherbourg. La ligne Paris-Granville est elle aussi fortement touchée par ce mouvement de grève. 3 trains ont été annulés dès hier au départ de la gare Montparnasse. C'est compliqué aussi au départ de Granville avec 4 trains annulés en direction de Montparnasse. La SNCF qui conseille aux voyageurs devant se déplacer de consulter le site internet sncf.com ou l'application de façon à suivre le trafic en direct. La politique maintenant avec les adhérents des Républicains qui ont donc choisi Valérie Pécresse pour représenter leur parti à l'élection présidentielle 2022. La présidente de la région Île-de-France s'est imposée assez largement au second tour face au député Éric Ciotti avec plus de 60% des suffrages. Une évidente satisfaction pour l'un de ses premiers soutiens dans le Calvados, le secrétaire départemental des Républicains, conseiller régional et conseiller départemental du canton de Courseulles-sur-Mer, présent aux côtés de sa candidate ce week-end, Cédric Nouvelot.
S'est battu depuis plusieurs mois et puis moi j'accompagne Valérie depuis plusieurs années, donc oui, je suis satisfait que nos militants aient voté massivement, hein. Il y a un fort taux de participation aussi sur le Calvados, 83%, qui est au-dessus de la participation nationale. Les militants se sont déplacés, ils ont choisi une candidate et ils ont choisi aussi un programme, hein. C'est le programme que défendait Valérie Pécresse, et on voit bien que 61% ont plébiscité ce programme, et je suis aussi ravi évidemment de la façon dont ça s'est passé, avec un rassemblement très large.
Valérie Pécresse n'était pas favorite pour la primaire, elle a gagné, elle n'est maintenant pas favorite pour l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'elle puisse connaître le même scénario?
Oui, moi je pense qu'il y a une vraie fenêtre de tir, comme on dit, il y a une vraie possibilité. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que depuis hier, les nombreux appels que j'ai et les personnes que je rencontre, je ne savais même pas qu'elles étaient des fois sympathisantes de droite, qui sont contents en disant « c'est une bonne candidate, vous avez vraiment fait le bon choix, c'est bien pour le pays », me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Il y a une vraie dynamique. Maintenant, effectivement, il faut la concrétiser. Il y a une grande campagne à venir. C'est un vrai travail de terrain. Valérie repart en campagne dès demain matin. Elle est sur les plateaux de télé depuis hier, mais elle repart en campagne demain matin. Elle fait des déplacements toute la semaine. Elle va se rendre chez Éric Ciotti. Elle va aller également voir Xavier Bertrand. Donc, elle se rend dans toutes les régions sur lesquelles il y avait des candidats à ce congrès. Et puis, elle a prévu déjà de nombreux déplacements, de nombreuses participations. Évidemment, avec la difficulté du Covid actuellement, mais on aura une belle présence terrain et une belle campagne qui s'amène. J'espère effectivement un beau débat d'idées, c'est ce dont le pays a besoin, et que les gens puissent se choisir en toute connaissance de cause. En tout cas, moi, mon choix est fait depuis longtemps, et je pense réellement que Valérie Pécresse peut être une grande présidente de la République.
Cédric Nouvelot, qui soutiendra donc la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle 2022, c'était son premier choix, tout comme celui du sénateur du Calvados, Pascal Alizart, et du président de région, Hervé Morin. On passe au sport et au football. Maintenant, le Stade Malherbe de Caen a donc ramené un point de son déplacement en Bourgogne. C'était samedi, le score 2-2 face à la JOCR. Le regret pour les Canets, c'est d'avoir concédé le but de l'égalisation alors que les Normands évoluaient en supériorité numérique suite à l'exclusion d'un Auxerrois coupable d'un tacle en retard sur le Canet Mehdi Chaïri, gravement blessé. Donc sa saison est probablement terminée puisqu'il a été opéré d'une fracture ouverte à la cheville. Un sentiment partagé donc pour l'entraîneur Canet, Stéphane Moulin.
Sur le plan tactique, tout le travail défensif collectif est bon, parce que ce soir on les a mis en échec dans ce qui sont les plus forts, je pense, avec Toulouse dans les enchaînements et Sochaux, certainement dans les enchaînements à 25-30 mètres des buts adverses, et on les a vraiment bien embêtés dans ce domaine-là, donc là-dessus c'était parfait. Après évidemment qu'on a manqué beaucoup de justesse technique, notamment en première mi-temps sur des coups faciles, on a redonné le ballon beaucoup trop vite, et ce qui fait que malheureusement on n'a pas pu mener à bien notre tâche, et si on avait été plus juste, je pense qu'on aurait gagné. Donc c'est toujours ce problème. En plus de ça, on prend deux buts un peu particuliers, parce que le premier, bon voilà, c'est même si la frappe est magnifique, et puis comme souvent, trop souvent, on prend un deuxième but sur coup de pied arrêté. Donc on repart avec de la frustration. Après, sur l'investissement des joueurs, sur la volonté, sur le de repartir de l'avant, parce que bon, c'est pas simple, hein, notre situation est difficile, mais voilà, je voulais qu'on montre et que les joueurs montrent à tous nos supporters qu'on est encore là, qu'on est encore en vie, même si c'est dur, on lâchera pas, on lâchera rien. Et voilà, ce soir, le visage de l'équipe m'a plu, même si elle doit faire beaucoup mieux sur le plan technique.
Et au classement, le Stade Malherbe est 17e avec 18 points, soit autant de points que le 18e et barragiste Bastia. Prochain match à Dornano, samedi, face à Guingamp. À ne pas manquer ce soir, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Rendez-vous à partir de 18h15.